Le 28 juin 1914, un assassinat à Sarajevo. 5 semaines plus tard, l'Europe est en guerre. Comment un événement somme toute local a-t-il pu déclencher un conflit mondial? C'est vraiment la question au cœur de notre analyse aujourd'hui. On va explorer ensemble une série de documents qui retracent pas à pas cette fameuse crise de juillet 1914.
Et on va essayer de comprendre l'enchaînement des décisions, les calculs stratégiques et aussi les erreurs qui ont mené à la Première Guerre mondiale.
Avec, j'imagine, la grande question de la responsabilité.
C'est la question centrale. Est-ce la faute d'un seul pays ou alors le résultat d'un système qui, en fait, a échappé à tout contrôle? Les sources qu'on a examinent le rôle de chaque grande puissance, de Vienne à Berlin, de Saint-Pétersbourg à Paris et Londres.
Alors, commençons par le début. L'étincelle, dans une Europe déjà sous très haute tension. Tout commence donc à Sarajevo, la mort de l'archiduc François Ferdinand, l'héritier de l'Empire austro-hongrois. À première vue, on pourrait dire que c'est un acte terroriste, mais pourquoi cet événement a-t-il eu un impact aussi dévastateur ?
C'est le contexte qui est fascinant ici. L'Europe de 1914 est divisée en deux blocs militaires, très rigides.
La Triple Alliance et la Triple Entente.
Exactement. D'un côté, la Triple Alliance, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie. De l'autre, la Triple Entente, France, Russie, Royaume-Uni. Et en plus de ça, il faut voir que l'Empire austro-hongrois est lui-même très fragile.
Ah oui ?
Oui. Il est plein de tensions nationalistes, surtout dans les Balkans où la Serbie, sa voisine, gagne en influence.
Donc pour Vienne, cet attentat n'est pas un simple crime, c'est bien plus que ça.
C'est une attaque directe contre l'intégrité de son empire.
Une menace existentielle en quelque sorte.
Exactement. L'attentat est perçu comme la preuve que la Serbie est une menace mortelle. Et chaque capitale européenne va interpréter l'événement à travers le prisme de ses propres peurs et de ses propres ambitions.
D'accord.
Pour Berlin, c'est une occasion de soutenir son allié autrichien. Pour la Russie, qui se voit comme la protectrice des Slaves, c'est une menace pour son influence. La violence de Sarajevo, en fait, agit comme une étincelle dans une atmosphère qui était déjà saturée de tensions.
D'accord, alors décomposons la suite. L'Autriche-Hongrie doit réagir. Quelle est sa décision ?
Ben, à Vienne, il y a deux options sur la table. Une solution diplomatique ou une action punitive.
Et c'est la ligne dure qui l'emporte, imagine.
Oui, sans surprise. L'objectif devient de punir la Serbie militairement pour réaffirmer la puissance de l'Empire. Mais pour cela, Vienne a besoin d'une garantie.
Et c'est là que l'Allemagne entre en jeu de manière décisive. On parle du fameux chèque en blanc.
Oui, le 5 juillet. C'est un moment absolument clé. L'Allemagne promet à l'Autriche-Hongrie un soutien total.
Total. Même en cas de guerre ?
Même en cas de guerre avec la Russie. C'est ça, le chèque en blanc. Berlin adopte à ce moment-là une stratégie du risque.
C'est-à-dire ?
L'idée, c'est de soutenir Vienne si fermement que la Russie en face n'osera pas intervenir. Les dirigeants allemands parient sur une guerre rapide, une guerre locale dans les Balkans.
C'est une grave erreur de calcul.
Une très grave erreur de calcul.
Parce que, évidemment, la Russie ne reste pas passive. Comment est-ce qu'elle réagit ?
La Russie est face à un dilemme. Laisser tomber la Serbie, ce serait une humiliation, une perte d'influence énorme.
Mais intervenir, c'est le risque d'une guerre européenne.
C'est exactement ça. Alors, après avoir reçu l'ultimatum austro-hongrois du 23 juillet...
Un ultimatum jugé inacceptable par tout le monde, d'ailleurs.
Absolument. Saint-Pétersbourg choisit donc une voie intermédiaire, la mobilisation partielle, juste contre l'Autriche-Hongrie. C'est une mesure qui est pensée comme défensive.
Mais qui est perçue comme une provocation, n'est-ce pas ?
Totalement. Pour l'état-major allemand, dont les plans militaires, comme le plan Schlieffen, sont très très rigides, une mobilisation russe, même partielle, ça déclenche une mécanique quasi automatique.
Le temps devient l'ennemi.
C'est ça. Face à la mobilisation générale russe qui est proclamée le 30 juillet, Berlin n'attend plus. Elle envoie ses propres ultimatums à la Russie et à la France. La course contre la montre est lancée.
Et pendant ce temps, que font la France et le Royaume-Uni ? Est-ce qu'ils espèrent encore pouvoir sauver la paix ?
Ni Paris ni Londres ne veulent la guerre, c'est clair. La France soutient son allié russe, mais sans le pousser à l'affrontement. Sa marge de manœuvre est assez limitée.
Et le Royaume-Uni ?
Le Royaume-Uni, par la voix de son ministre Sir Edward Grey, propose une conférence internationale pour une médiation.
Une tentative de la dernière chance ?
Oui, mais cette proposition est rejetée par Vienne et par Berlin, qui considèrent que la crise est une affaire purement austro-serbe.
La diplomatie est donc complètement dépassée par la vitesse des événements militaires.
C'est exactement ça. On entre dans une mécanique de l'escalade. l'ultimatum, puis la déclaration de guerre de l'Autriche à la Serbie le 28 juillet, les mobilisations qui s'enchaînent, chaque étape rend la suivante presque inévitable. La méfiance est totale.
C'est-à-dire que chaque action défensive est interprétée par l'autre camp comme un acte d'agression.
Précisément.
Et le coup final, ce qui fait vraiment basculer tout le continent, c'est l'invasion de la Belgique.
Oui. Le 4 août, pour exécuter le plan Schlieffen, qui vise à attaquer la France rapidement par le nord.
Tout. L'armée allemande viole la neutralité de la Belgique.
Voilà. Et pour Londres, qui est le garant de cette neutralité, c'est inacceptable. Le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne. En quelques jours, une crise locale est devenue une guerre européenne.
Alors, revenons à notre question de départ. Après avoir déroulé tout ça, qui porte la responsabilité principale dans le déclenchement de cette guerre ?
C'est une question compliquée. Mais les documents suggèrent ce qu'on pourrait appeler une responsabilité graduée.
Une responsabilité graduée, c'est intéressant.
Oui, ce n'est ni la faute d'un seul, ni la faute de tout le monde de manière égale. Il y a une hiérarchie claire dans les décisions qui sont prises.
D'accord. Alors, résumons cette hiérarchie. Qui est au premier niveau ?
Au premier niveau, on trouve l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne.
L'Autriche-Hongrie pour sa décision de déclencher une guerre punitive contre la Serbie et son refus de toute médiation.
C'est ça. Et l'Allemagne pour son chèque en blanc qui a rendu cette guerre possible et pour sa stratégie du risque qui a complètement échoué. Ces deux puissances prennent les décisions qui rendent la guerre probable.
D'accord. Et ensuite ?
Au deuxième niveau ?
Au deuxième niveau ?
Il y a la Russie.
La Russie.
Elle ne voulait pas de guerre européenne, mais sa décision de mobiliser, même si elle était défensive dans son intention, a massivement contribué à l'escalade.
Surtout qu'elle connaissait les risques.
Elle connaissait parfaitement les risques. Enfin, au troisième niveau, on trouve la France et le Royaume-Uni.
Eux, ils n'ont pas cherché la guerre. Ils ont même tenté des médiations.
Oui, mais leurs efforts ont été insuffisants pour arrêter la mécanique qui avait été enclenchée par les autres.
Donc si on résume, la guerre n'est ni un accident ni une fatalité. C'est le résultat d'une série de choix politiques. Des choix où la peur de paraître faible et la logique rigide des alliances et des plans militaires ont pesé plus lourd que la volonté de préserver la paix.
En résumé, la crise de juillet 1914 nous montre comment la méfiance, des calculs stratégiques risqués et des systèmes militaires trop rigides peuvent enfermer les dirigeants dans un chemin vers la guerre. Un chemin qui dépasse, parfois, et même souvent, leurs intentions initiales.
Et cela nous laisse avec une dernière pensée, peut-être ? Les documents analysent les décisions prises, mais ils soulèvent une question plus profonde. À quel point la peur du déclin, la crainte de perdre son statut de grande puissance, a-t-elle été le véritable moteur de ses choix ? Bien plus que l'ambition ou le désir de conquête.